la Tbilissi à Don Cherry.
Bonjour, Mala B. Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Salut, Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi, Dan.
Oui, ça va bien. Cette semaine, on a officialisé les joueurs qui s'en allaient avec Équipe Canada pour le championnat mondial de hockey junior. Tu as dirigé 20 ans au hockey, dont plusieurs années dans le hockey junior. Est-ce que à chaque année, tu avais à côtoyer un gars qui était soit content d'être invité, soit déçu de ne pas faire l'équipe, ou simplement déçu de ne pas avoir été invité?
Oui, c'est sûr qu'à chaque année, tout le monde y croit. C'est tellement un rêve pour chacun des joueurs de cet âge-là d'avoir la chance de pouvoir aller au plus gros tournoi de hockey amateur, si on peut dire. Mais à chaque année, oui, tu as des déceptions. Mais il y a des déceptions qui sont plus prévisibles quand un gars a un mauvais début de saison ou quand un gars a eu une blessure. Sauf que les gars, ils croient tout le temps puis ils pensent tout le temps qu'ils vont avoir une chance parce que c'est difficile pour les joueurs de se comparer avec les joueurs des autres ligues. Tu sais pas ce qui se passe en Ontario, tu sais pas ce qui se passe dans l'Ouest. C'est que si c'est un des meilleurs de ta ligue, tu veux y aller. Puis oui, il y a eu des déceptions. Oui, il y a eu des heureuses surprises, mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein. C'est que tu as souvent, plus souvent qu'autrement, des joueurs qui sont déçus. Et on sait qu'au Québec, on a souvent eu la réputation de ne pas envoyer beaucoup de joueurs. C'est que tu as souvent dealé avec des joueurs, justement, qui vont avoir vécu une déception.
OK. Est-ce que tu as vu des joueurs participer à Équipe Canada Junior ou simplement à un camp d'entraînement, peut-être, qui sont revenus à toi? Puis qu'il n'était plus le même joueur, mais en disant ça, là, je te pose la question. Quand je dis qu'il n'était plus le même joueur, je parle positivement.
Bien, plus le même joueur. Je suis obligé de te dire, je vais te parler de joueurs qui sont allés. Ça, c'est plus le fun d'en parler. Des gars comme la même année, on avait Le Temps puis Marchand qui faisait partie de la même équipe, qui revenait après les fêtes à Val-d'Or. Quand tu as la chance d'avoir des joueurs comme ça qui vont vivre cette expérience-là, c'est sûr que quand ils reviennent, ils ont un petit down après parce qu'ils ont vécu tellement des grosses émotions. Sauf que quand ces joueurs-là reviennent d'une expérience comme celle-là, tu vois tellement dans la préparation des joueurs, d'un, d'avoir côtoyé les meilleurs et surtout d'avoir eu à se préparer comme si c'était un septième match de la Coupe Stanley quasiment chaque soir, plus la compétition avance. C'est que le niveau de préparation, les joueurs souvent réalisent que le niveau de préparation peut faire la différence dans ce que va être leur carrière, pas juste dans ce que va être leur fin de saison, mais surtout, ça leur permet de voir c'est ce qui ressemble le plus au hockey professionnel. Donc, de voir ce qui ressemble le plus au hockey professionnel, tu vois des joueurs arriver puis être encore plus concentrés à porter attention aux détails. Parce qu'un joueur vedette, souvent, à un moment donné, va lever le pied parce qu'il est habitué d'être le meilleur, va moins porter attention aux petits détails. Et un coup que tu as une compétition comme celle-là, là, tu vas avoir une grosse différence.
OK. Éric, à chaque année, quand on bâtit l'équipe du Canada, au Québec, on se sent outré de ne pas avoir assez de représentants. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont chialé depuis 18 ans maintenant que je suis en onde. Je ne fais pas partie des gens qui chialent. Je me dis, si on était si bon que ça au Québec, ils nous prendraient. Puis l'exemple fait en sorte qu'il y a des années qui en ont pris beaucoup de joueurs du Québec. Puis peut-être qu'il y a un léger favoritisme parce que les dirigeants sont de l'Ontario ou de l'Ouest puis ils connaissent plus d'autres joueurs. Mais sais-tu quoi? Dans le Novissa, à Beauport ou dans le Atome 2B, à Lévis ou à Sainte-Foy, il y en a du favoritisme. Fait qu'il n'y en a pas juste dans Hockey Canada. Voici ma question. Est-ce que t'as l'impression que ce tournoi-là, quand on bâtit l'équipe du Canada, des fois, on entend, Éric, on a pris le meilleur groupe de 20 joueurs et on n'a pas pris les 20 joueurs les plus talentueux. Pourquoi il y a juste à ce tournoi-là qu'on entend ça? Toi, t'en as bâti des équipes dans ta vie. Il y a des entraîneurs qui nous écoutent ce soir qui ont eu des camps de sélection à faire. La seule fois dans l'année que j'entends qu'on prend le groupe de 20 joueurs et non les 20 meilleurs, c'est pour l'équipe qui s'en va au championnat mondial d'hockey junior.
Choisir les 20 meilleurs, il faut faire attention, là. C'est rare qu'un bon joueur, Dan, va être mis de côté, là. Le vrai joueur qui se démarque, il va faire sa place. Aucune inquiétude. Il va faire partie du groupe des 20 meilleurs. Où il y a une différence, c'est quand, à un moment donné, là, les joueurs commencent à être à égalité, et là, ça dépend du style de joueur que tu vas avoir. Et c'est là que tu vas compléter ton équipe par rapport à ce qui te manque. Et c'est à ce moment-là qu'on va mentionner, on a pris des joueurs de rôle, on a pris des joueurs qui se tirent justement dans le groupe des 20. Mais à la base, là, t'es 12, 13, je te dirais même que t'es 14 premiers, Dan. On va choisir les mêmes, toi puis moi. On va choisir les mêmes que la gang de Hockey Canada.
Okay.
Il n'y a pas de différence là-dessus. C'est les joueurs de soutien, les derniers joueurs qu'on va venir. Je prends l'exemple d'un gars comme Maxime Comtois l'an passé. Personne n'avait vu venir. Personne pensait faire déjà, mais ils ont identifié qu'il avait le caractère puis les habiletés pour être capable de commencer sur un quatrième trio puis jouer un rôle important. Mais là, ça revient, ça répond à tes deux dernières questions. J'ai aimé que tu dises léger favoritisme des fois, parce que moi, je vois pas plus loin que ça. Il est arrivé des années, mais c'est souvent les années où il y avait moins de Québécois dans le coaching staff puis dans l'organisation. Aujourd'hui, les coachs s'impliquent de plus en plus dans le programme d'Hockey Canada, sont impliqués plus rapidement avec les moins de 16 ans, avec les moins de 18 ans, qui font en sorte qu'ils sont déjà dans le programme. C'est que je suis de ton école, moi, à penser que le favoritisme, là, je suis pas vraiment d'accord. Léger, de temps en temps, mais comme nous, on a un favoritisme pour choisir un Québécois à talent égal quand c'est nous autres qui est aux commandes. C'est que de la même façon, par la suite, pour compléter ton équipe, pour revenir à la dernière question, les 15 premiers, pose-toi pas de questions. Tu peux déjà les écrire tout de suite sur une feuille, là. Alors, regarde l'alignement, tu te tromperas pas. C'est les derniers joueurs. Et là, c'est justement, tu vas venir mettre un joueur parce que quand tu fais le camp d'entraînement, à quoi il sert le camp d'entraînement, là? C'est pas de voir le talent des joueurs. C'est de voir comment les joueurs se comportent avec les autres. Un point qui est important, quand tu as un joueur qui est habitué d'avoir de la glace, puis tu t'attends d'y en donner moins, mais tu vas voir son attitude. C'est un gars qui boude, c'est un gars qui a une mauvaise attitude, qui n'est pas content quand le coach ne prend pas une décision en sa faveur, qui n'aura pas un bon esprit d'équipe. Là, pour les 3, 4, 5 derniers, ça va faire la différence. Mais le premier groupe de l'équipe, là, mais n'importe quel coach, puis ils vont choisir les mêmes 15 premiers.
OK, parfait. Je veux-tu mettre un cas dans la Ligue nationale? Là? Je vais te parler du Canadien ensuite, mais je veux-tu mettre le cas de Pécoriné? Pécoriné, Éric, l'année dernière, a été ordinaire en séries éliminatoires après avoir eu une saison de rêve. Il a même gagné, à moins que je me trompe, le trophée Vézina pour le meilleur gardien. Pécoriné a 36 ans. Il a une blessure au début de la saison. Et depuis qu'il est revenu de sa blessure, l'entraîneur Peter Laviolette n'a plus confiance en Oussé Saros, son second, tellement que le jeune Saros n'a pas gaulé depuis le 23 novembre. Pécoriné a 36 ans. Il n'y a pas un danger de le brûler s'il gaule aussi souvent que ça, tôt en saison?
Ça dépend toujours du calendrier que tu as. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand tu regardes ton équipe, où est-ce qu'on va? Comme moi, exemple, Carey Price, j'ai trouvé qu'on l'a tellement surprotégé que je trouvais même qu'il en perdait son rythme. Un gardien va te le dire s'il sent de la fatigue. Un gardien, en fonction du type de calendrier qu'il a, en fonction du type de voyagement, en fonction du type d'équipe que tu vas affronter, va faire en sorte que Martin Brodeur l'a fait, là, il gaulait à tous les soirs. Je m'excuse, mais je vais te poser la question, Dan, à savoir, puis je veux faire réfléchir le monde. Posez-vous la question d'un défenseur qui a de la glace comme Shea Weber.
Oui.
C'est plus fatigant un Shea Weber qui va jouer 30 minutes ou Carey Price qui joue à tous les soirs? Moi, je pense que c'est pas mal plus. C'est pas beaucoup plus dur d'être dans les buts. J'ai jamais été gardien de but, là, sauf pour l'avoir essayé 2-3 fois. Oui, c'est fatigant quand t'es pas habitué. Mais le niveau d'exigence par rapport à tes meilleurs joueurs, je te parle d'un défenseur, parce que les défenseurs, les meilleurs approchent souvent 30 minutes de jeu.
Ouais.
Mais pourquoi qu'on se pose jamais la question si chez Weber, on lui donne congé?
C'est vrai.
Pourquoi que les meilleurs défenseurs, les Chris Letang de ce monde, ils jouent leurs 30 minutes, on se dit, tu as deux en deux, peut-être qu'on le jouera pas. Non, quand t'es le meilleur, t'as le goût de l'embarquer pis t'as le goût de le jouer. Carey Price, je trouve qu'on l'a surprotégé. Je pense que le vrai problème qu'il peut avoir une équipe comme Nashville, c'est s'il n'y a pas de deuxième gardien, ça met moins de pression sur le premier. Mais de jouer souvent, on a vu une couple de gardiens qui ont eu du plaisir, qui ont performé. Il suffit de doser qu'est-ce que tu vas demander en entraînement. Il suffit de doser à quoi ressemblent tes voyages. C'est plus dur un peu pour les clubs de l'Ouest. Ça, c'est très clair. Mais pour le reste, moi, trop, c'est comme passé, mais faut pas non plus tomber dans l'excès de toujours les surprotéger. Au salaire qu'ils gagnent, moi, je pense qu'ils peuvent jouer souvent.
OK. Drouin et Domi. C'est le duo de l'air chez le Canadien. Lequel aide plus lequel?
Je pense que Domi fait en sorte que Drouin se sente obligé de travailler plus fort. Puis Drouin donne des ailes à Domi parce qu'il il force à exploiter sa vitesse. C'est que c'est vraiment un et l'autre qui font en sorte que les deux performent. Mais j'aurais le goût de te dire que de la façon, l'arrivée de Domi nous donne tendance à penser que c'est son arrivée qui influence le plus Drouin. Tu vois, un nouveau Drouin cette année, c'est pas juste qu'il soit à l'aile, là. puis tu le sens un petit peu plus concerné par le fait de vouloir performer comme l'autre. Fait que oui, je donnerais un avantage sur le fait que Domi ait plus droit à performer, mais c'est dans les deux sens, parce que les deux sont différents, puis les deux se poussent à être meilleurs. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont tant de succès présentement.
OK, Eric, c'est quoi les qualités d'un gars qui... j'emploie l'expression telle quelle, tu vas très bien la comprendre, là. C'est quoi les qualités d'un gars qui rend les autres meilleurs autour de lui?
Un gars qui rend les autres meilleurs... Bon, prenons l'exemple de Shea Weber qui vient de revenir dans le line-up présentement.
Oui.
De voir la prestance d'un gars, de voir la confiance qu'un gars sur la glace, de voir la préparation d'un joueur dans la chambre, de le voir aller s'entraîner dans le gym, parce qu'aujourd'hui, c'est des machines, là. Quand l'entraînement du matin finit, tu les vois aller dans le gymnase. Quand ce gars-là arrive, c'est un peu plus gênant de lever le pied. C'est un peu plus gênant de donner, parce que c'est facile de tricher d'une pratique, Dan. Tu sais, tu as joué assez longtemps au hockey, que si tu décidais de ne pas.
Tu veux-tu insinuer que j'ai triché?
Dan, on a tous triché dans notre vie. Rappelle-toi ça.
T'aurais dû.
Si t'essayes de me convaincre que t'as jamais triché, mais tu serais probablement aujourd'hui avec les patins d'un pied encore.
Hey, Eric,
Je sais pas si c'est mardi. Comme joueur ou comme arbitre.
Ouais. Ah ouais, c'est ça, j'ai deux options maintenant, mais mardi soir à Cérémual, je confirme que j'ai encore triché.
Bon, mais on a tous triché toute notre vie. Et c'est encore plus facile de tricher dans les pratiques. C'est facile de se cacher dans le fil.
Okay.
C'est facile de ralentir sur l'échec avant. Ce qui fait que quand tu joues avec des gars qui ont la pédale dans le plancher, je vais donner l'exemple, Christopher Letang, j'ai jamais vu une machine comme ça dans les entraînements. Lui, si tu avais le goût de tricher à côté de lui, là, je te jure que tu le savais.
Okay.
C'est qu'il y a des joueurs comme ça qui sont des purs saints, qui sont toujours la pédale dans le plancher, qui sont toujours les premiers dans les exercices, qui sont toujours ceux qui travaillent le plus fort. Mais quand tu es à côté, tu n'as pas le goût de lever le pied parce que tu sais qu'il risque de te tomber d'en face. Puis c'est ça un leader, autant par l'exemple qu'à un moment donné, par ses actions, qui va faire en sorte que tout le monde se sent obligé de pousser.
OK, en terminant cette semaine, hors des ondes, on s'est parlé au téléphone, puis tu m'as dit, Dan, les Sénateurs sont croches. Explique à nos auditeurs qu'est-ce que tu voulais me dire.
Bien, les Sénateurs jouent quasiment 500, mais quand ils regardent jouer, je trouve que collectivement, présentement, c'est pas un club qui joue bien. C'est un club qui prend des chances. C'est un club qui, à un moment donné, fait des grosses erreurs, même s'ils sont jeunes, font des grosses erreurs, laissent la rondelle proche de la ligne bleue. Il y a des zones de revirement où tu peux pas, dans l'hockey, perdre la rondelle. Ils jouent pas très bien collectivement, présentement. Sauf que, de l'autre côté, ils ont deux top guns, puis ça amène à parler ce que tu as déjà dit, à savoir qu'aujourd'hui, c'est une ligue offensive,
oui.
Puis tu gagnes avec l'attaque. Ce qui les sauve, c'est qu'ils ont deux top guns, en Duchesne puis Stone, qui font ça, qui peuvent jouer un match ordinaire, puis regarde ce qu'ils font dernièrement, dans les fins de match. Tu penses qu'ils sont plus dans le match, d'un coup, l'autre club s'endort, puis ils ont des tireurs d'élite qui vont marquer un, deux, trois buts, puis ils ont fait ça dernièrement, coller deux, trois buts dans la dernière période, où tu penses qu'ils sont plus dans le game, puis ils se rapprochent. Mais ils ne jouent pas très bien collectivement. Ils ne jouent pas du très, très bon hockey au niveau systématique. Mais le fait que tu aies une couple de joueurs de talent qui peuvent marquer des buts, ça change la donne au complet. Puis je pense qu'on s'en va vers ça pour les équipes championnes. C'est, prends Toronto, oui, ils jouent bien, mais ils marquent des buts. Puis plus tu marques de buts, mais plus ça te permet de moins voir tes erreurs puis de mieux jouer collectivement.
Parfait. Un gros merci, Eric. Bonne soirée à toi.
Merci beaucoup, Dan. Salut bien.
Salut bien. Éric Lavigne, l'excellent chroniqueur du jeudi dans l'avant-match. Chaque jeudi, on a le privilège et le bonheur de lui parler. Avant d'aller à la pause, Will me dit qu'il veut revenir sur l'émission L'Antichambre d'hier soir. On va écouter.
Absolument. Moi, je veux revenir sur la signature de contrat de William Nylander de samedi dernier. 6 ans, 6,9 millions. Déjà, les Leafs s'étaient bien lentis avec un trio d'excellents joueurs en attaque avec Marner, Tavares et Matthews. À ça s'ajoute Nylander. Je pense que il y a une tendance qui va changer dans le monde du hockey et elle est déjà changée depuis les deux Coupes Stanley consécutives des Penguins de Pittsburgh et celle des Capitals l'année dernière. Je pense que maintenant, au lieu de donner un spectacle avec l'attaque et de gagner les championnats avec la défensive, on va gagner la Coupe Stanley avec de l'attaque. Et en ce sens, les Leafs ont la meilleure attaque de la Ligue, selon moi, vu le quatuor de joueurs qu'ils possèdent en attaque. Et peu importe les défenseurs, Ron Hainsey, qui joue à Toronto actuellement, a gagné la Coupe Stanley avec Pittsburgh il y a 2 ans. Fait que, peu importe le groupe de défenseurs ou qui est le gardien, je pense que c'est l'attaque qui va déterminer qui va gagner la Coupe Stanley dans les prochaines années.
Je suis assez d'accord avec toi, Dan, à propos de l'attaque.
Martin, tu y crois?
Non, zéro. Je suis zéro d'accord avec Dan, Philippe. J'irai même pas dans l'Ouest, juste dans l'Est. J'ai aucun problème à prendre le trio de Kucherov et Pointe et Stamkos à Tampa Bay pour égaler ce que Toronto peut te donner en attaque. Puis Tampa Bay ont un Edman et un McDonough d'avance sur peu importe le meilleur défenseur que tu veux trouver avec les Leafs de Toronto.
Ils les avaient les dernières années aussi, Martin.
Toronto, quand on regarde les deux dernières saisons, ça, c'est synonyme d'une chose en défensive. C'est Frédéric Anderson qui reçoit 40 lancers par match. Il est tout simplement sublime, ne reçoit pas les crédits qu'il mérite. Puis en série éliminatoire, ça ne marchera pas. Fait que juste dans l'Est, Tampa Bay qui a plus de profondeur, même à l'attaque. La quatrième ligne avec Mathieu Joseph, hier, 3 points.
Mais ça fait 5 ans qu'on attend qu'ils gagnent la Coupe, puis ils l'ont pas gagné encore.
Ah oui, mais ça fait 100 ans qu'on attaque Toronto à gagner. Les photos sont en noir et blanc dernière.
Mais c'est pas la même équipe qu'ils ont actuellement.
Ah oui, mais je te dis que moi, je prends Tampa, là, mets dans la balance du talent, là. Je prends Tampa dans la balance du talent avant la balance de talent de Toronto. C'est parce que là, t'es aveuglé, ils sont bleus et blancs, puis ça ressemble à Québec.
Non, 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 pas du tout, quand même.
Je te taquine.